Bien, donc chapitre 4, nature et culture. Nous sommes donc arrivés à ce point où il nous faut opposer, selon la tradition, les sciences de la nature et les sciences de la culture ou sciences de l'esprit. Opposition qui était extrêmement classique au XIXe siècle, lorsqu'effectivement, on a commencé à institutionnaliser par étapes les sciences de la culture en face, justement, des sciences de la nature avec des prétentions à l'autonomie. Ontologiquement, les philosophes ont effectivement toujours appuyé cette opposition. Il suffit de regarder la façon dont Hegel envisage d'un côté la nature et de l'autre la culture comme étant la réappropriation par l'esprit du domaine où s'était aliéné le concept. Il suffit de voir que, effectivement, les sciences de la culture concernent ce qui a trait à la signification, à l'histoire et à la compréhension. Alors, évidemment, cette opposition entre nature et culture pose des problèmes de fond. Il y a d'abord un problème ontologique. Pouvons-nous nous servir de la dichotomie philosophique de l'âge classique entre matière et esprit pour essayer de comprendre l'opposition? Il y a des problèmes, je dirais, de limites. Et ces problèmes sont devenus extrêmement importants à partir de 1859, c'est-à-dire de la parution de l'ouvrage de Darwin sur l'origine des espèces. Pourquoi ? Bien, il est tout à fait clair qu'à partir du moment où on envisage le règne végétal et le règne animal comme le produit d'une évolution, l'être humain n'est pas apparu tel quel dans une spécificité qui prédétermine ce qu'il sera, mais qu'il est justement le résultat d'un processus. Et que par conséquent, il n'y a pas de frontière ontologique entre l'humain et la bête. Mais s'il n'y a pas de frontière ontologique, comment justifier l'opposition entre nature et culture? Et il s'agit d'un problème de fond qui touche aussi bien la philosophie que les problèmes méthodologiques des sciences humaines, voire les frontières des disciplines. Et ce qui apparaît depuis les années 70 du XXe siècle comme l'idée qu'on puisse faire une nouvelle synthèse entre les sciences de la culture et les sciences de la nature et abolir leurs différences. C'est ce que nous essaierons d'approcher de façon empirique à propos de la sociobiologie ou des sciences cognitives. Alors, opposer nature et culture, ça suppose qu'on trouve un critère discriminant. On sait que pendant très longtemps, on a utilisé le langage comme faisant fonction de ce critère discriminant. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de nier que les animaux disposent de systèmes de communication. Mais on connaît cette anecdote du XVIIIe siècle, lorsque l'on a rapporté au Jardin du Roi, au Jardin des Plantes, un orang-outan, et où célèbre cardinal se plaçait devant l'orang-outan et ainsi mes lords, parle et je te baptise. Ce qui signifiait, hein, justement, si cet animal dispose de la parole, ce n'est pas une bête, c'est un être humain. Les philosophes des Lumières, qui sont, je dirais, les véritables inventeurs de l'opposition entre la nature et la culture, utilisaient aussi ce critère. Mais ils l'utilisaient dans un schéma évolutif. C'est pourquoi ils s'intéressaient à l'origine des langues. Et ils marquaient bien, c'est le cas autant de Rousseau que de Condillac, ils marquaient bien que, dans le fond, la capacité du langage naissait dans une émergence avec un système de signes naturels. Prenons le cas de Condillac. Du seul fait que je sois plongé dans le monde, je reçois des signaux. Je veux dire que l'environnement, les arbres, les plantes font naître en moi certaines idées. Et quand je me retrouve devant les éléments analogues, eh bien, ces idées ressurgissent. C'est ça le signe naturel. C'est quand la nature est susceptible de faire naître en moi des réminiscences, des représentations. Mais tant que je suis dans cet état, eh bien, finalement, je suis soumis aux aléas de mes vagabondages dans le monde, qui font naître des souvenirs, des représentations, au gré des fluctuations de mon environnement. Alors, quelle est la différence, justement, entre le signe naturel et le signe qui est proprement la marque de l'humanité, c'est-à-dire ce signe qui deviendra linguistique? Il est clair que pour Condillac, il doit y avoir un moment d'auto-organisation où la manipulation, la présence du signe n'est pas l'effet de la nature sur moi, mais l'effet de ma propre volonté, où je suis capable de les manipuler à mon gré. Et dès lors, on voit très bien que ce qui naît, c'est bien entendu la capacité de se représenter indépendamment des circonstances, la capacité de se représenter indépendamment de toute relation causale entre le signe et l'objet extérieur. Dire que dans le fond, le signe devient arbitraire, c'est-à-dire qu'il dépend de mon arbitre, et il peut devenir artificiel et ne plus rien avoir avec la structuration intrinsèque du monde. Mais du coup, on voit très bien que ce qui naît avec le langage, c'est-à-dire avec l'arbitraire, c'est la liberté et c'est l'entrée dans la société, dans des échanges, et donc la constitution de cet ordre qui se superpose à la nature et qu'on appelle la culture, où de nouveaux comportements émergent, de nouvelles relations entre les êtres humains émergent et où donc apparaît l'histoire. Alors, bien entendu, cette théorie d'origine des langues, c'est une théorie d'origine de la culture, et c'est en quelque sorte une théorie de l'origine de l'humanité. Elle ne va pas sans poser quelques problèmes, notamment sur des questions de continuité ou sur d'autres questions, comme cette auto-organisation spontanée qui fait naître l'arbitraire. Pourquoi d'autres philosophes ont cherché dans des facultés proprement humaines et en quelque sorte innées la racine de l'humanité. Mais je crois que dans toute cette histoire de compréhension de l'opposition entre la nature et la culture, l'essentiel peut être résumé dans le travail de Claude Lévi-Strauss et en particulier dans sa thèse sur les structures élémentaires de la parenté en 1947. Pourquoi la parenté? Je dirais que la parenté est fondée sur un phénomène naturel. C'est la filiation. Et la filiation, c'est le rapport sexuel. Et le rapport sexuel, c'est la reproduction. Quoi de plus naturel que cela? Les animaux autres que l'homme, hein, les bêtes, sont engagés dans le système de leur reproduction, en particulier les mammifères. Ils ont ce qu'on peut appeler, et je le dirais entre guillemets en quelque sorte, des enfants, des fils, des filles. Du coup, il semblerait que les relations père-mère, enfant-parent, frère-sœur, soient des relations naturelles. Et c'est bien ainsi d'ailleurs que beaucoup de philosophes au XVIIIe siècle envisageaient l'origine de la famille. Ceci dit, il y a quelque chose de plus complexe, parce que dans les sociétés humaines, l'homme et la femme ne se retrouvent pas parents par le biais d'une relation naturelle, que serait la reproduction, mais par le biais d'une toute autre relation, qui est le mariage. Or, le mariage, effectivement, nous le concevons, et nous le concevons dans toutes les sociétés humaines, comme étant le rapport entre deux individus de sexe opposé, qui, justement, n'ont pas de lien de parenté. La condition du mariage, c'est justement cette absence de lien de parenté qui correspond à ce que nous appelons la prohibition de l'inceste. Alors, on connaît la prohibition de l'inceste depuis fort longtemps. En particulier, elle est inscrite dans la juridiction, elle a été sévèrement punie. On retrouve dans la Bible, vous voyez les relations de Lot et de ses filles, on retrouve donc dans la Bible cette prohibition de l'inceste qui semble être un universel culturel. Et on peut choisir une explication, je dirais, naturaliste à cela. Très longtemps, les éleveurs d'animaux ont remarqué que, d'une certaine façon, la prolongation des relations incestueuses au sein d'une population amenait à des problèmes d'ordre génétique. Bon, on dirait aujourd'hui la concentration des caractères, et quand ces caractères ne sont pas quelque chose de valorisé, eh bien, ça aboutit à des tares. Donc, on pourrait dire que la nature, d'une certaine façon, a horreur de l'inceste, et qu'il y a une loi naturelle d'ordre biologique. Ceci dit, c'est plus compliqué que ça. L'inceste dans une société, non, ce n'est pas essentiellement la prohibition de relations sexuelles entre individus de même origine parentale. Non. Ça, effectivement, la relation sexuelle, ça reste toujours dans la nature. L'inceste, c'est la prohibition du mariage entre individus qui ont un certain lien de parenté. Et le mariage, ça se définit par une relation qui se trouve contractuelle, définie au sein de la société et qui correspond à différents éléments rituels qui sont variables selon les sociétés. Quand je dis à des relations définies, toutes les sociétés déterminent avec quelle femme on ne doit pas se marier et avec quels hommes, les femmes, ne doivent pas se marier. Par conséquent, la prohibition de l'inceste, en tant qu'elle règle le contrat social que constitue le mariage, est premièrement une règle. Deuxièmement, une règle quasiment universelle. Et je dirais, Troisièmement, la première règle qui distingue la nature et la culture et qui définit en quelque sorte la séparation, la frontière entre ce qui est de la reproduction animale, naturelle, hein, et ce qui est la famille humaine. C'est pourquoi Lévi-Strauss en fait la démarcation privilégiée de la nature et de la culture. Cela signifie que cette démarcation repose sur l'opposition entre la règle qui définit l'ordre de la culture et la loi. Et on voit bien que d'un côté, la règle, elle correspond à de la contingence dans la réalisation. Double contingence. D'une part, les règles, même si elles portent sur les mêmes domaines, ne sont pas tout à fait les mêmes entre les cultures. D'autre part, les règles, on peut toujours les enfreindre. Le principe de la règle, c'est d'une certaine façon qu'elle est offerte à la contingence de l'acte prescrit. Ce n'est pas parce qu'il y a une règle que les actes qu'elle prescrit n'auront pas lieu. Ce n'est pas parce que l'on proscrit l'inceste qu'il n'y aura pas d'inceste. Sinon, il n'y aurait pas besoin de punition pour essayer de réduire cette proscription. Le domaine de la nature est celui de la nécessité. On ne conçoit pas qu'il y ait d'autres lois de la nature que celles que nous observons, même si quelques philosophes en ont fait l'hypothèse, qui est au reste extrêmement intéressante. Et surtout, on ne conçoit pas que s'il y a une loi, eh bien, les événements ne s'enchaînent pas en fonction de ces lois. Et on voit bien, justement, la façon dont la culture se superpose à la nature. Il est hors de question de considérer que la reproduction n'appartienne pas au champ naturel de la biologie. Mais le mariage humain, eh bien, ce n'est pas de la reproduction. Le mariage humain nous met dans le domaine de la règle, de l'histoire, de la convention. Et bien entendu, cela nous conduit à réfléchir l'opposition entre science de la nature et science de la culture par rapport à cette opposition entre règles et lois, dont nous avons vu qu'elles correspondaient véritablement à des éléments, je dirais, de syntaxe de notre langage, à des éléments ontologiques qui définissent deux ordres d'êtres, les êtres qui sont des normes, les êtres qui sont des objets naturels, des choses. Alors, évidemment, le domaine de la culture est le domaine de la diversité et le domaine de l'histoire. Domaine de la diversité. Que voulons-nous dire par là? Eh bien, restons chez Lévi-Strauss. Nous voulons dire que les structures de la parenté, les déterminations du nom, le rôle de l'éducation, les possibilités de mariage ne sont pas les mêmes d'une société à une autre. Et que, par conséquent, sur ce fondement universel, 1, de la reproduction naturelle, 2, de la prohibition culturelle de l'inceste, se produit quelque chose qui est l'ouverture de multiples possibles. Et ouverture de multiples possibles, ça signifie que le domaine de la culture n'est pas déterminée mécaniquement par le domaine de la nature. Il ne s'ensuit pas de quelque constitution physique que ce soit que nous devions nous comporter comme ceci ou comme cela en tant que nous sommes des êtres humains qui appartenons à une certaine culture. Alors bien sûr, on peut toujours évoquer des éléments naturels, des instincts, instincts maternels ou instincts de pudeur. Ce sont des éléments sur lesquels ont largement réfléchi les historiens des mentalités. Dire l'historien qui s'occupe de la façon dont sont régulés au niveau de macro-concepts, hein, comme je sais pas, la pudeur, l'amour, le rapport aux enfants, les relations sociales. Instinct maternel. Qu'est-ce que ça voudrait dire? On nous dit que dans la nature, les mères s'occupent des petits. Ce n'est pas toujours vrai. Et puis, dans les sociétés humaines non plus, ce n'est pas toujours vrai. On sait bien que, par exemple, Louis XIV ne bénéficiait pas, dans son enfance, de l'attention de son père et qu'il était abandonné à ses nourrices. On sait bien que la mort d'un enfant, jusqu'à la constitution de la famille bourgeoise au XIXe siècle, était quelque chose considéré comme naturel, passé aux pertes et profits, et on ne s'attachait pas aux enfants. Alors quel instinct est derrière tout cela? Il y a plutôt, dans le fond, une représentation sociale qui construit à un moment donné une place déterminée pour tel ou tel être, l'enfant, dans une société, et qui fait que nous agissons par rapport à cet environnement social et les normes qu'il y a derrière. C'est pareil pour ce que nous appelons la pudeur. Ouais, nous pouvons imaginer des origines lointaines et naturelles. Adam et Ève, dans le paradis, s'aperçoivent soudain qu'ils sont nus. Dans des quantités de civilisation, on ne s'aperçoit pas qu'on est nu, parce qu'il est normal d'être nu. Et même dans nos civilisations, sur une période pas si lointaine, du XVIe siècle à maintenant, l'exposition du corps au regard d'autrui, qu'il s'agisse du corps de la femme ou du corps de l'homme, a considérablement varié. La façon dont on se baigne, la façon dont on est ou pas habillé pour dormir, la façon même dont le lit est utilisé par un seul, par un couple, par une famille, eh bien, tout cela a considérablement varié. Le fait que l'on voile la nudité, même plus généralement, telle ou telle partie du corps, est une affaire, je dirais, d'histoire, de mentalité, qui varie énormément. Donc, l'histoire, effectivement, c'est le lieu où nous renvoyons toujours lorsqu'il s'agit de la culture. Bien entendu, cela n'explique pas tout. En particulier, ce n'est pas l'histoire qui explique la prohibition de l'inceste. Que l'inceste soit prohibé est une question, en quelque sorte, de structure. L'inceste signifie structurellement que certains mariages sont impossibles. Alors là, aucune explication historique. Il y a simplement des relations logiques. Alors, structure, histoire, loi. Y a-t-il des lois de la culture? Si on parle de structure et non pas de loi, c'est parce que dans le fond, ce sont des éléments formels et, je dirais, des éléments logiques. Certains systèmes ne peuvent pas être constitués sans respecter, eh bien, justement, ce que nous appelons les structures des systèmes. La loi, c'est tout à fait autre chose. La loi, c'est un déterminisme qui se superpose, dans le fond, qui généralise les relations causales. Et se poser la question de la validité du concept de loi dans le domaine de la culture, ce n'est pas du tout se poser la question du poids des structures et finalement des nécessités qu'elles font peser sur l'organisation des différents domaines de la vie humaine. Alors, on peut envisager qu'il y a des lois dans le domaine de la culture, mais du coup, c'est envisager des lois dans l'histoire. Alors, on l'a fait. On l'a fait au XIXe siècle, tout naturellement. Et je citerai deux domaines, l'économie et le langage. L'économie, chacun sait que pour de nombreux économistes, voire des historiens, voire des philosophes, l'évolution de l'humanité dans ses rapports aux biens, c'est-à-dire à leur production, à leur échange, à leur distribution, correspond effectivement à des lois. C'est le cas, par exemple, de Marx, qui, à partir de l'idée que toute valeur économique était du travail, pouvait déterminer la part de profit comme étant du travail non payé, donc opposer le profit et le travail, et du coup comprendre que l'évolution du coût du travail conduisait à ce qu'on appelait la baisse tendancielle du taux de profit. Seulement, il faut bien voir que cette idée de loi de l'histoire nous conduit à faire du domaine de la culture quelque chose d'équivalent à la nature et nous conduit, dans le fond, à un déterminisme. Or, ce qui se passe, justement, c'est qu'il y a, dans le domaine de l'histoire, constante redistribution des éléments, des structures, qui fait que, quand bien même on peut observer un sens dans lequel se développent les éléments sur un court terme, sur le long terme, eh bien, nous n'avons pas de possibilité de prévision. La possibilité de prévision nous mènerait à ce que Popper appelle l'historicisme, c'est-à-dire justement le fait que l'histoire ne soit pas le domaine de la liberté. Et je dirais que nous pouvons bien voir des enchaînements de faits qui déterminent localement des configurations et donc qui nous permettent de prévoir. Je peux très bien essayer de voir ce que sera la conjoncture économique dans 3 mois, 4 mois, 1 an. Et pourquoi? Parce que je vais pouvoir observer des variables, voir comment elles vont évoluer et se déterminer les unes les autres. Mais tout ça, parce que je me donne des conditions initiales qui sont fixes. Or, ces conditions initiales, justement, ce sont des choses que l'histoire change. Donc, bien entendu, si, en quelque sorte, je regarde dans mon dos, je peux faire état de régularité. Par exemple, dans le domaine linguistique, je peux faire état des changements phonétiques. je peux dire effectivement que tous les pays indo-européens sont passés dans des feux des langues germaniques. Et c'est ce que l'on a appelé des lois phonétiques, en utilisant justement le terme de loi que l'on utilisait dans les sciences de la nature. Et les lois phonétiques sont des régularités qui me permettent de décrire l'histoire des langues. Seulement voilà, nous les construisons à un temps T pour un temps T moins N. Lorsque j'utilise les lois de la physique pour faire des prédictions, je les utilise à un temps T pour un temps T plus N. Autrement dit, l'histoire nous permet de faire de la rétrodiction, mais pas de la prédiction, je dirais, au-delà d'un laps de temps qui est relativement court. Je peux très bien dire que tel pays va à la faillite économique s'il continue la politique actuelle. Je peux même dire qu'il faudra tant d'années ou tant de mois. Bon. Mais justement, c'est conditionnel s'il poursuit la politique actuelle. Donc, il n'y a pas de possibilité de prédiction. Alors, on pourrait se poser une question philosophique, mais si je n'ai pas de loi véritable qui me permettrait la prédiction, qu'est-ce que cela peut signifier qu'il y ait des régularités dans les événements passés que j'observe justement? Dans le cas, je dirais, des langues, c'est bien simple. C'est parce que le changement n'affecte pas la diversité des mots. Je veux dire, le changement affecte des éléments constitutifs des mots et qui sont moins nombreux, ce que l'on appelle des phonèmes. Eh bien, à partir du moment où un phonème change, ça se répercute sur toutes ses occurrences dans les mots. Autrement dit, ces régularités sont la conjonction, d'une part, des accidents aléatoires de l'histoire, et d'autre part, des conditions structurelles de fonctionnement des langues. Opposition, donc, qui devient très claire entre nature et culture. Ceci dit, cette opposition semble tenir à l'opposition entre ce que l'on appelle la norme et le fait, entre système des obligations et, je dirais, le système des nécessités causales qui régissent les phénomènes naturels. Et effectivement, dans le domaine de la culture, semble apparaître d'emblée quelque chose que l'on appelle les valeurs. Et du coup, notre opposition entre nature et culture, elle est conjointe à l'opposition traditionnelle entre les jugements de valeur et les jugements de fait. Qu'est-ce que je veux dire? Quand je dis cette table devant moi est blanche, je me réfère à une propriété dont j'imagine qu'elle est intrinsèque aux choses. Bon, la couleur, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, ça a un rapport avec le système perceptif du sujet, mais néanmoins, je rapporte cette propriété à la chose et j'en fais une propriété intrinsèque. Ce qui est blanc n'est pas noir, et c'est dans sa constitution même. Si je dis « cette table est belle », alors, je peux essayer de trouver des propriétés dans les choses, disant qu'elle est harmonieuse, mais ça veut dire quoi? Et il est beaucoup plus simple, comme le faisait David Hume, de considérer que le jugement de valeur, voire que lui-même, il est simplement question de plaisir et de déplaisir, est constitué de quelque chose d'intrinsèque au sujet. C'est au reste ce point de vue que reprenait Kant dans la critique de la faculté de juger, et en particulier sur le jugement esthétique, disant qu'effectivement, ça provenait d'une universalité sans concept, mais qui naissait dans le sujet. Donc, culture, domaine des valeurs, je ne dis rien d'autre là que ce que je disais sous cette forme. Culture, domaine normatif, domaine des obligations. Et du coup, j'ai effectivement une nouvelle opposition. Or, c'est une opposition qui est également critiquée, voire critiquable, et en particulier le philosophe américain Putnam, mais bon, quantité de ses condisciples avec lui, ont refusé cette dichotomie. Or, je crois que ce n'est pas rien comme opposition. Dire qu'il y a des jugements de fait et des jugements de valeur, ça signifie qu'il y a des choses que nous pouvons bouger et d'autres que nous ne pouvons pas changer. Les faits sont les faits, et nous n'y pouvons rien. Jugement de valeur, dans le fond, les Aztèques ou les Mayas pratiquaient les sacrifices humains, et ils jugeaient que c'était bien, nous jugeons que c'est mal. Et le fait en soi, c'est ce que je décris comme, justement, c'est pas si facile de le décrire, si je décris comme sacrifice, je renvoie un système de valeurs religieux. Ça a un sens, un sacrifice. C'est quelque chose qui me cause de la peine, que je fais pour montrer que je renonce à quelque chose afin d'avoir autre chose. Si je le décris en termes de meurtre ou d'assassinat, c'est pareil. En plus, je suppose que je condamne cette pratique. Alors, c'est un petit peu comme tout à l'heure la partie de football. Je ne pouvais pas la décrire en termes objectifs, qu'en termes factuels, sans nier qu'il s'agisse de football. Les termes de valeur me sont en quelque sorte quasiment indispensables pour décrire les activités humaines. Et lorsque je dis qu'il n'y a pas de distinction nette, tranchée entre valeur et fait, comme le fait Putnam, je veux dire qu'il y a un moment où je ne sais pas si je suis dans le fait ou dans la valeur. Et ce passage insensible pourrait justifier que, dans le fond, des faits deviennent des valeurs, ou qu'il y ait des valeurs qui soient, dès le départ, des éléments naturels. Ce qui est contraire, je dirais, à toutes les pratiques, à toutes nos cultures, et à tout ce qui rend compte du fait qu'il y ait un système que nous appelons le droit, qu'il y ait quelque chose que nous appelons la justice. J'ajouterai qu'il est extrêmement intéressant de voir que Putnam utilise la critique de la distinction entre valeur et fait dans le domaine des sciences économiques. Dans le domaine des sciences économiques, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, c'est de voir que lorsqu'on distingue le fait et la valeur, on veut dire que on va distinguer la description du fonctionnement d'un système économique de tout jugement pour savoir si c'est bien ou si c'est mal. Et je dirais que ceux qui ont intérêt à abolir la distinction entre valeur et fait, ce sont ceux qui, finalement, ont intérêt à nous faire passer un système de valeurs pour quelque chose qui serait de l'ordre de la facticité et donc qui ne serait pas le produit de notre libre choix. Et d'une certaine façon, je dirais que l'erreur de Putnam, ce n'est certainement pas de nous dire que sur certains points, il y a impossibilité de trancher pour savoir s'il s'agit de faits ou de valeurs. Encore que les exemples qu'il pose ou qu'il présente soient discutables. Par exemple, la cruauté. Il dit la cruauté, c'est un fait. Ou ça devient une valeur, puisque ça fait l'objet d'un jugement négatif. Je ne suis pas si sûr que cela, que nous devions admettre cette utilisation d'un concept à la fois comme valeur et comme fait. Car ce qui est en question, c'est par exemple la nécessité de considérer qu'une conduite animale est cruelle. Je crois que dire que la façon dont un loup peut déchiqueter sa proie est cruelle, eh bien tout simplement n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est ni cruel ni pas cruel, c'est quelque chose de l'ordre de la facticité. Le loup, il arrache des lambeaux de chair pour se nourrir, et puis point. La cruauté, ça se constitue dans un système de valeurs qui est justement notre environnement culturel et qui fait qu'il y a des choses que nous rejetons, d'autres que nous ne rejetons pas. Et système de valeurs qui, par rapport à l'ordre des faits naturels, est dans la contingence et par conséquent dans la possibilité de changement. Je crois que des philosophes comme Putnam ou comme Searle ont tort de penser que l'on peut déduire le fait, le droit du fait. D'abord, ce n'est pas la même syntaxe. Logiquement, nous ne pouvons pas introduire de prémices normatives, de conclusions normatives qui tu dois s'il n'y a pas déjà, dans au moins l'une des prémices, une norme. Et que, dans le fond, la distinction entre le droit et le fait, entre les valeurs et le fait, c'est une question de fonctionnement de notre système de référence. Je veux dire, si j'abolis la distinction, mon système ne fonctionne plus. Et par conséquent, ce n'est pas une question de savoir s'il y a une origine du système dans la nature. C'est une question de comprendre que le système du droit ne fonctionne qu'à condition de lui accorder sa spécificité. Alors, l'erreur de Putnam provient sans doute de ce qu'il ne s'intéresse qu'à la façon empirique dont Hume justifie sa dichotomie du jugement de fait, du jugement de valeur, sur le fait que le jugement de valeur se rapportera à notre subjectivité. Je crois qu'il faut voir, étudier la distinction plus profondément, en particulier chez le Rousseau du contrat social, pour expliquer que la question n'est pas une question de commencement, de dire que c'était comme ça, etc. La question est de savoir si c'est une origine, et de dire que, justement, dans notre système de représentation, eh bien, le système des valeurs, il n'a pas la même origine que le système des faits, et que le système des valeurs, le système de la culture, présuppose justement cet arrachement à la facticité dont Rousseau faisait le commentaire à propos du droit du plus fort. Alors du coup, la question se pose de savoir si, comme le proclament de nombreux chercheurs contemporains, on peut naturaliser l'esprit. Naturaliser l'esprit, c'est-à-dire finalement non pas envisager les phénomènes culturels, comme le proposait Durkheim, comme si c'était des choses, mais considérer qu'il n'y a pas de solution de continuité entre la nature et la culture, et penser que les phénomènes culturels sont de constitution biologique. Ça signifie que des phénomènes biologiques permettent d'expliquer des phénomènes comme sont, par exemple, notre système social ou des phénomènes comme le fonctionnement de nos sciences et de nos représentations. Par là, je vise finalement deux disciplines. L'une qui s'est constituée dans les années 75 du XXe siècle, sous l'influence d'un chercheur américain, Wilson, et qui est la sociobiologie. L'autre, qui est plus complexe et qui correspond aux sciences cognitives et qui s'est développée à peu près à la même époque et qui tend d'une certaine façon à remplacer la psychologie cognitive ou l'épistémologie. La thèse de Wilson, c'est que dans le fond, nos comportements sociaux s'expliquent par des déterminations biologiques. Il invente ainsi des instincts, des gènes qui permettraient de concevoir que, de même qu'il y a certains phénomènes sociaux dans le règne animal non humain qui seraient expliqués par des conditionnements génétiques, eh bien, les comportements socio-humains seraient expliqués par des comportements génétiques qui soient déterminés une fois pour toutes. Alors, principale critique, je dirais, qu'on peut faire à la sociobiologie, c'est une espèce d'immense amphibologie sur les concepts, et je dirais une utilisation abusive de la génétique. Amphibologie sur les concepts. Si vous voulez chercher l'origine de la famille dans l'ordre naturel, vous allez utiliser des termes que nous utilisons pour les fratries humaines. Père, mère, frère, sœur. Est-ce que un chimpanzé né de la même mère et du même père biologique que une autre chimpanzé peuvent être vraiment dit frère ou sœur? Je crois qu'il y a un abus de langage. Parce que pour qu'il y ait des frères et des sœurs, il faut que nous soyons situés dans l'ordre de la culture, dans l'ordre de la famille culturelle, dans l'ordre des interdits, dans l'ordre des permissions, dans l'ordre des constitutions mentales qui définissent le rapport que nous devons avoir l'un à l'autre. Autrement dit, la sociobiologie a beau s'appuyer sur l'éthologie animale, c'est une espèce d'immense escroquerie qui consiste à utiliser les concepts hors de leur sens. Alors, contre l'entraînement biologique, là aussi, il s'agit d'un abus. Il s'agit d'un abus qui vient se constituer lorsque l'on admet que derrière tout comportement spécifique et que nous pouvons décrire, par exemple, la délinquance, et que nous pouvons décrire à l'aide de termes qui sont justement des valeurs, des normes qui sont constituées dans notre culture. Il n'y a pas de délinquance dans un système de loi, dans un système de loi arbitraire. Il n'y a pas tel type de délinquance qui se définissent une fois pour toutes. Par exemple, la pédophilie est quelque chose qui correspond à une détermination culturelle et qui varie d'une culture à l'autre. Donc la sociobiologie ne peut travailler qu'en imaginant qu'il y a des gènes de la délinquance ou cette chose absurde que sont des gènes de la pédophilie. Et bien entendu, la biologie ne repose pas là-dessus. C'est plus compliqué avec les sciences cognitives, qui reposent effectivement sur le fonctionnement du cerveau et, je dirais, sur l'utilisation formelle des protocoles, mais à cette collaboration entre différentes disciplines que supposent les sciences cognitives, il manquera toujours, si on en fait uniquement des éléments biologiques, le concept déterminant de l'histoire, qui fait qu'il y a une constitution historique de nos connaissances et